Vous écoutez France Culture.
Bonjour, Françoise Tressart et la bande des Papous du Dimanche, ensemble jusqu'à 13h58 pour la première partie d'une émission spéciale enregistrée en public à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette à Paris. Samedi 4 février, un samedi à la météo glacée, nous nous tenions chaud dans l'auditorium de la Cité. Vous étiez plus de 700 à répondre présent à notre rendez-vous. Merci à tous pour les rires et la complicité. Alors certains d'entre vous, par manque de place dans la grande salle, nous ont vus et écoutés face à de larges écrans sur lesquels était projetée en direct notre séance de jeux littéraires. C'est une vidéo que vous pourrez bientôt voir. Elle rejoindra sur Dailymotion et franceculture.fr nos autres vidéos des Papous dans la tête. Avec moi sur scène, Jeanne Carillon, Patrick Beignet, Lucas Fournier, Eva Almassy, Jacques Vallée, Odile Conseil, Jacques Abertrand, Serge Joncourt et Jacques Jouet. Allez, en piste pour la récréation littéraire de France Culture, des papous dans la tête avec des jeux d'imagination en rime ou prose dans une ambiance légèrement peinture et polar où se croiseront aussi quelques Gaulois sortis directement de l'expo renversante de la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette à Paris. Un aperçu du programme par Jeanne Carillon, un aperçu du programme en chanson sur un air de Boris Vian. On n'est pas là pour se faire engueuler.
Bienvenue à la cité, messieurs, dames. Je chante pour vous demander le programme. Espérons que les papous vous enflamment avec leur jonglerie. Peut-être bien qu'il y aura des anacolutes et des eugmes par milliers qu'on chahute. L'important c'est que vous soyez là pour écouter. Alors je vous dis padam pam pam, on est venu pour vous déménager les neurones, le cerveau, les méninges, padapoudoubou. On est venu pour vous ébouriffer la caboche, vous serez tous des sphinges. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort aux zygomatiques. On compte sur vous pour mettre l'ambiance. Orchestrée par la grande Françoise Tressart, au micro, elle donne les départs. Loupez surtout pas Beignet le faussaire, qui donne du fil à retordre aux experts. Et Jacques Abertrand, le dandy élégant, que les sales types intéressent. Le sourire hongrois d'Eva Almassy vous fera oublier tous vos soucis, tandis que Jacques Vallée se mettra à poéter d'un air léger, padam pam pam. On est venus tous pour vous tricoter des histoires, des fables pas correctes. On est venus pour jouer à la récré, ça fait pas de mal à l'intellect. Si Serge Joncourt était resté chez lui, ça ferait du tort à l'impro comique. Le filoutage, c'est ce qu'on préfère. Alors attendez-vous à ce qu'on s'en mêle les pinceaux et les mots pêle-mêle. Notre gamine du Nord, c'est Odile Conseil, qui se joue des rimes et fait des merveilles. Tandis que Lucas Fournier fait le malin en parlant de la malle ou les bains, ou bien de Victor Hugo son poteau. Ce soir il en dira sans doute un mot, tandis que Jacques jouait d'un rire sérieux va vous cueillir. Je préfère vous le dire, padam pam pam. On est venus tous pour vous tabarbuster, croyez pas qu'on va se tenir tranquille, palaboudou. On est venus tous pour vous titiller les oreilles et un peu le nombril. Heureusement que vous êtes avec nous, on peut taquiner vos écoutilles. Attention, oh oui, ça commence. commence. Le rideau de la radio va s'ouvrir, les mots se préparent à bondir. S'il vous le dit en chantant sur ce bel air de Vian, c'est que la musique, ça fait du bien aux palpitants.
C'est un rituel au cours de nos émissions publiques. Certains jeux sont improvisés devant vous sur scène, comme ça, et en un temps donné, et selon des contraintes parfois un peu farfelues. Alors, le premier de ces jeux aujourd'hui, c'est les nouveaux fabulistes. Et c'est la première fois que Odile Conseil, Jacques Abertrand et Serge Joncourt vont jouer à ce jeu devant vous, devant un public, comme ça. D'habitude, ça se passe en privé dans notre studio. Alors, en quoi ça consiste ? Il s'agira pour eux d'écrire des fables avec moralité, bien sûr, genre La Fontaine ou Florian, mais des fables dont les héros seront des objets, en quelque sorte, des mots choisis au hasard. Au hasard, c'était moi, le hasard. Et j'ai mélangé des mots, comme ça, à ma façon. Et ce seront les personnages de leur fable. Alors, je vais remuer. Il n'y a pas énormément de papier dans la casquette de Jacques Vallée, mais vous allez la passer à Jacques Abertrand. Odile, c'est Odile qui va tirer au sort la première. Alors, Odile, vous avez le droit à un premier tirage. Vous avez le droit de le refuser, si ça ne vous plaît pas. Vous nous lisez les trois mots qui y figurent.
Bleu, bol et croûte.
Voilà. Ah, il ne vous échappe pas que ces mots ont des sens propres, des sens figurés, avec lesquels vous pourrez jouer. Bleu, bol, croûte, ça vous inspire ou pas ? Vous avez le droit de refuser un des trois personnages.
Ça m'inspire passionnément, donc je vais prendre ces trois personnages. Peut-être que je ne ferai quelque chose qu'avec deux d'entre eux.
C'est possible.
Merci,
c'est possible.
Françoise.
Offrez la casquette à Jacques Bertrand. Jacques, à vous.
Pente, fuite et tuile.
Voilà, ça vaut le coup de réfléchir un peu.
C'est, tout ça est en descente.
Oui. On peut les remonter, les pentes.
Oui, non, ça va.
C'est j'ai l'impression que vous vous méfiez du reste.
C'est un beau mot de Gide, d'ailleurs.
Qui disait
de,
quoi
approximativement, chacun doit suivre sa pente en la remontant.
Ah, voilà. Très bien, vous gardez, servi. Serge Joncourt, il reste deux papiers dans la casquette.
Oui, c'est gentil, merci de me servir en dernier.
Ouais.
Alors, flèche, tabac et paradis.
Ah, c'est bien ça.
Ah oui ?
Enfin, moi je les ai... Ouais ? Bah, si je les ai mis, c'est parce que je trouvais que la rencontre était intéressante.
Oui.
Non ?
Oui, sans doute. Mais j'ai envie de...
D'aller au dernier.
Oui, de le refuser.
Bah oui. Vous aimez le risque.
Absolument.
Alors, ce sera...
Je peux revenir au... Non.
Non.
Gratin, balai et poire, non.
Je vous avais conseillé les autres. Hein.
Ça, c'était fait exprès. C'est pour moi.
Allez, on rend sa casquette à Jacques Vallée. Vous allez travailler, donc. Ils vont être devant vous, derrière nous. Et ils vont travailler. Et pendant ce temps, on continue le programme. Alors, puisque les rimes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, auront une place importante dans ce numéro des Papous, je vous propose, pour entrer dans le vif de ce moment qui nous réunit, de nous intéresser au mot « ouverture ». Le mot « ouverture », « ouvrir », « la séance est ouverte », c'est un mot riche de sens et de possibilités. Et j'ai eu envie que Eva Almassy et Jacques Jouet le traitent, ce mot, selon la formule de notre petit rimailleur illustré. Alors, ça se présente comment ? Vous êtes en duo ?
Oui, nous sommes en duo.
Sur l'ouverture.
Sur l'ouverture.
Ouais.
Un jour, à l'opéra, on entend l'ouverture. Un soir, à l'apéro, on se met en appétit. L'apéro opéra dans cette conjoncture le miracle attendu depuis qu'on est petit.
Quand on s'ouvre à l'amour pour la première fois, avec la force du destin, on ouvre les débats. Tarara, 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 tarara. On déflore, on explore, on aguiche, on défriche. Pareil couvrir un Schweppes jusqu'à ce que ça fasse pchit.
Télé-réalité, caméra transparence, on n'a plus de secret, on vit à livre ouvert. Le contrôle social et le flicage rance, comme aux États-Unis sous Edgar G. Hoover.
Oh, jolie rime, la rime riche.
Ce mail plein de virus ne l'ouvre pas. Pareil, la boîte de Pandore ne l'ouvre pas. La septième porte de Barbe Bleue ne l'ouvre pas. Et si le loup n'a pas le digicode, ne lui ouvre pas.
Serre, serre, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. D'accord, petit lapin, tire la bobinette. Je ne me souviens plus de quoi déjà chérera. Ah oui, ça me revient, c'est pas la chevillette.
Jamais je ne peux ouvrir le plastique refermable d'une portion de fromage en imitant le renard qui entame le corbeau à partir du ramage d'un coup sec au coin de l'emballage de la fable.
Ouvre, 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 ouvre. Ouvre-toi que je vois, ouvre-toi, bon sang de bois. Plus souvent, je te prie que ne s'ouvre le Louvre. Ton cœur entre-ouvre-le, ton cœur que je m'y noie.
Tu crains les courants d'air si j'ouvre des guillemets? Porte ouverte ou fermée, viens Alfred de Musset. Ce coup de foudre ouvrira ma fermeture éclair. Tu ouvres et tu refermes une parenthèse, mon cher.
Ton cœur que je minois dans ton petit minois. Mais enfin quelque chose, enfin fais quelque chose. Je ne vais quand même pas me servir d'un casse-noix. Écoute-moi, Sylvie, Caroline, Aude, Rose.
Vite, vite, ouvre les huîtres et n'ouvre pas tes veines. Ouvre l'œil et la bouteille, un bon vin de Touraine. J'ouvre-moi la télé, la radio, le journal, tournoi destination, la France sans Chabal.
Au rugby, je jouais en demi d'ouverture et j'avais sur le front quelques points de suture.
Ça m'aurait étonné, il fallait que Lucas entre ici par la force et mette son grain de sel. Enfin, pardonnons tout à sa vis comica et revenons vite fait à notre jouvencelle.
Et j'ouvre l'enveloppe de l'Oscar du meilleur auteur, acteur, actrice, éclairagiste, ma sœur. Ton nom ouvre la liste, à toi d'ouvrir la gueule, qu'on rêve les yeux ouverts au vieux temps de la Gaule.
Si entrée, c'est ouverte, c'est en mi compagnons, afin qu'entretenus et caressés soyez. Si entrée sans baiser, suce la bouche et non nionce, recevrez d'amitié, entrez si m'en croyez.
Ouvrez, ouvrez la porte, Nanette la jolie. Ouvrir le robinet, du gaz serait folie. Si ce n'est pour faire la soupe et ouvrir un resto, comme ouvrira ses stores le matin à lefto.
Comme ouvrira le score au rugby Yashvili, d'une pénalité crucifiant l'Italie.
Ah non, pitié, pitié, c'est assez du rugby. C'est là la porte ouverte à toutes sortes de scores. La fleur s'ouvre, la feuille en la fougère. Qui ouvrira, dit Quenot, tout son palais des sports.
Quelle chance te vois, Jacques, avec ce mot. Ouvert, on peut refaire le monde et même tout l'univers. Tarara, tarara, c'est la force du destin. Les fleurs s'ouvrent et je clôt mon ultime alexandrin.
Ultime, 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 comme tu y vas, Eva. Mais personne ne sait, dit-on, le jour ni l'heure. Je n'accepte jamais la fin d'une diva. Continuons, s'il te plaît, avant que l'on ne meure. Et ne tenons pas compte, enfin, des ennemis, car qui dit ouverture dit aussi fermeture. Comme qui dit cigale aussi dira fourmi et jettera sanglant nos deux cœurs en pâture.
Et le reste ne sera que de la littérature.
On a bien fait le tour de l'ouverture. Est-ce que, cependant, vous auriez quelque chose à ajouter, Patrick Beignet ?
J'ai trouvé deux vers de Victor Hugo dans La Légende des siècles, ouais. Où les vers ne manquent pas, hein. Et qui utilise le mot ouverture. Doucement enroulés dans notre couverture, nous rêvions d'opéra joué sans ouverture.
Merci de nous avoir rappelé ces vers. Lucas Fournier.
Une citation de Franck Ribéry, qui a lu Victor Hugo. Contrairement à ce qu'écrit Heidegger dans Sein und Zeit, je pense que Richard Wagner a eu raison de placer l'ouverture de Tannhäuser au début de son opéra.
Maintenant, c'est Jacques Vallée. Jacques Vallée tout seul pour le jeu des suppositions. Alors, le jeu des suppositions, c'est un petit jeu badin qui consiste à démarrer un récit en interpellant quelqu'un à qui l'on dit « suppose que tu t'appelles ». Suit un nom, imaginé par Jacques Vallée, en l'occurrence, et puis un court récit qui s'achève, qui doit s'achever en tout cas, sur une chute calembourgeoise à partir du nom du début. C'est bien ça, Jacques Vallée ?
En gros.
D'accord. En gros, alors pour le détail, c'est vous, et vous vous adressez à qui ?
À Lucas.
Oui.
Lucas, supposons un instant que tu t'appelles Sank.
Sank ?
Oui, comme dans le son « thank you ».
Ah, Sank. Sank.
Non, ça rime plutôt avec banque ou plutôt tank.
Un monsieur est bilingue.
Alors, Lucas, tu parais un petit employé régulier sans vraiment de caractère particulier.
Oh, c'est pas lui, ça.
Sans beaucoup de compétences quand tu travailles. Bon, disons que tu es un peu couleur muraille. Oui. Mais Sank, en fait, tu es un amateur de vie. Tu es un carrefour de rêves et d'envies. Seulement, tu n'affiches rien. Tu es discret. Tu restes confiné dans tes jardins secrets. Tu te caches sous une trompeuse apparence et un feu couve sous tes airs d'indifférence. Les femmes, surtout, Sank, attisent tes désirs.
C'est vrai.
Bien que tu ne saches ni vouloir, ni choisir.
Ah bon ?
Reconnaissant que tu es un grand amoureux, tu ne penses qu'à ça.
Oui.
Bien que trop paresseux pour t'engager. Alors, le manque te désole. Et chaque nuit, à l'instar du bon roi Pozzol, tu rêves d'un harem où tu passerais le temps avec pour chaque nuit un amour différent. Et quand, seul au matin, sans que navré se réveille, il s'en veut de quitter ce pays des merveilles. Il n'a plus qu'un désir. C'est de fermer les yeux, de rejoindre à nouveau ce monde voluptueux où l'on retrouve, ému de tant de nudité dans des bras féminins, l'homme Sank alité.
Ah. Wow. Bien, bien joué, Jacques Vallée, l'homme sans qualité.
De Robert Musil.
Les mystères du téléphone. Alors, vous qui avez un téléphone dans votre poche ou dans votre sac, en tout cas, à portée de main, vous qui angoissez si un certain matin vous oubliez votre téléphone portable à la maison, vous savez que cet abus du portable a banalisé l'acte de téléphoner. Tout le monde téléphone n'importe où, on ne fait même plus attention à ce qu'on dit. Et pourtant, à côté de soi, il y a des gens qui écoutent, qui peuvent avoir l'oreille attirée par certains mots, par certaines idées qui sont émises dans votre conversation. Enfin, la conversation, non, parce que vous n'en entendez qu'une voix, celle de la personne qui est à côté de vous. Le reste est un mystère absolu, mais souvent, quand on est accroché par une conversation, on essaie d'imaginer, on gamberge. Et on remplit les vides, les silences par son imagination. Alors c'est ce qu'a fait Lucas Fournier, parce que Patrick Beignet à côté de lui est au téléphone. Alors on va d'abord entendre Patrick Beignet seul, et on va rêver sur ce qu'il dit, et sur les silences entre ses répliques. Patrick Beignet, est-ce que c'est vous qui appelez ou on vous appelle ?
On m'appelle.
Bien, alors ?
Oui, qui est à l'appareil ? Ah, vous êtes le journaliste de Paris Match ? Vous venez avec un photographe, finalement ? Enfin, je suis beaucoup plus que cela. C'est un terme réducteur en ce qui me concerne. N'oubliez pas l'urbaniste. Ça me paraît une chose extrêmement importante au point où nous en sommes. C'est pour cela que la une de Paris Match me paraît un très bon plan. Vous êtes gentil, mais ça me paraît d'un intérêt un peu limité. Mais c'est pas de ça que vous vouliez d'abord me parler, je présume. C'est en effet une de mes spécialités, avec l'urbanisme. Je suppose que votre problème, c'est d'être crispé. En plus, je suppose que vous auriez l'air idiot. Mais que voulez-vous que j'y fasse ? D'habitude, je les frappe, deux ou trois bonnes baffes. Et puis, j'essuie leurs larmes. Et ensuite, vous connaissez la chanson de Marie Dubas. Ah, ça, c'est votre problème, mon cher monsieur. J'ai jamais prétendu que c'était facile. Il faut du courage, de la force d'âme. Et puis, je pense que la pratique de l'urbanisme facilite beaucoup les choses. Allons, commencez pas à pleurer. C'est le contraire de ce que vous vouliez. Avez-vous essayé de vous chatouiller ? J'en suis ravi. Excusez-moi, on sonne. Je pense que c'est le journaliste de Paris Match. Je me demande s'il vient avec un photographe. Au revoir, cher monsieur.
C'est mystérieux, non ? Alors, vous êtes comme moi, vous êtes comme Lucas, vous avez écouté Patrick, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien lui raconter ? L'autre ? D'abord, c'est une femme, c'est un homme ? Alors, vous qui avez rêvé sur cette conversation, Lucas Fournier, c'est une femme ou un homme ?
Non, c'est un homme et ouais. J'ai fait un rêve, donc, que je vais soumettre à Patrick.
Donc, qui... vous lui donnez le texte.
Voilà, il le découvre à l'instant même, il ne sait pas de quoi il s'agit.
Et on va entendre la vraie conversation imaginée par Lucas Fournier.
Mais qui est très proche de la réalité.
Ben ça, on ne sait pas.
Allô ? C'est le directeur de l'opéra ?
Oui, qui est à l'appareil ?
Ici le FLOP, Front de Libération de l'Opérette Provençale. Nous avons capturé le dénommé Wolfgang Amadeus Mozart, en plein milieu de l'enlèvement au Sérail. Vous pouvez encore négocier avant qu'on balance tout à la presse.
Ah, vous êtes le journaliste de Paris Match. Vous venez avec un photographe, finalement ?
Non, je crois qu'on s'est mal compris. Hein. Nous sommes pressés, mais nous ne sommes pas à la presse. On serait plutôt côté maître chanteur. Les maîtres chanteurs, c'est une référence qui vous parle à l'opéra. Eh bien, le rapt de Mozart, dans votre opéra, ça va faire du bruit. Ça peut vous coûter votre tête, même si vous n'êtes qu'un fonctionnaire.
Enfin, je suis beaucoup plus que cela. C'est un terme réducteur, en ce qui me concerne.
Oui, on l'a vu dans le Wikipédia. Hein. Claude-Édouard Duglandier, directeur de l'opéra, musicologue, plasticien, compositeur, pianiste, chorégraphe, écrivain, peu cher. Ça vous a fait des métiers. Hein.
N'oubliez pas l'urbaniste. Ça me paraît une chose extrêmement importante au point où nous en sommes. C'est pour cela que la une de Paris Match me paraît un très bon plan.
Monsieur Duglandier, la une de Paris Match, elle n'est pas pour vous. Non. Ce sera Wolfgang Amadeus en otage, le scoop. Mais vous pouvez encore éviter une tragédie médiatique si vous acceptez nos revendications, redonner sa juste place à l'opérette provençale. Haine de la Canebière, Méditerranée, au Pays du Soleil, Trois de la Marine, Arène Joyeuse, Scotto, Francis Lopez, Tino Rossi.
Vous êtes gentil, mais ça me paraît d'un intérêt un peu limité. Mais c'est pas de ça que vous vouliez me parler d'abord, je présume.
Mais si c'est de ça. Dans votre opéra, il n'y en a que pour l'Italie. Verdi, Monteverdi, Puccini, Rossini, Bellini, Dodinetti. Sans parler de Mozart et des Allemands. L'opérette provençale, jamais. Alors, ou bien vous changez votre programmation, ou nous procédons à une première exécution de Mozart. Ce sera la symphonie numéro 40, celle en sol mineur. Vous la connaissez ?
C'est en effet une de mes spécialités, avec l'urbanisme. Je suppose que votre problème, c'est d'être crispé.
Je ne suis pas crispé, je suis déterminé. C'est vous qui le serez crispé quand vous verrez à la télévision ce soir le Wolfgang Amadeus avec notre écriteau flop autour du cou et nous derrière avec nos cagoules vertes sur la tête.
En plus, je suppose que vous auriez l'air idiot. Mais que voulez-vous que j'y fasse ?
Je veux. Oh, Fernand, tu peux dire à Mozart de taper moins fort sur son clavecin, je téléphone. Excusez-moi, hein. Je veux que vous alertiez les plus hautes autorités nationales et internationales. Vous avez l'habitude des ministres. Vous savez bien y faire avec eux.
D'habitude, je les frappe, deux ou trois bonnes paires de baffes, et puis j'essuie leurs larmes. Et ensuite, vous connaissez la chanson de Marie Dubas.
C'est qui ça ? Encore une cantatrice qui chante l'opéra des chansons en allemand, genre Lohengrin, Tannhäuser, Nibelungen, Siegfried. Non, désolé, je parle pas l'allemand.
Ah, c'est ça votre problème, mon cher monsieur. J'ai jamais prétendu que c'était facile. Il faut du courage, la force d'âme. Et puis je pense que la pratique de l'urbanisme facilite beaucoup les choses.
Monsieur Duglandier, votre urbanisme que vous avez plein la bouche, il ne vous a pas appris qu'à Nîmes, Marseille, Aubagne, Toulon, Martigues, Gonfaron et même à Lamalou-les-Bains bat le cœur urbanistique de l'opérette provençale que vous, à Paris, vous avez bafoué, que vous avez humilié, que vous avez oublié, que vous avez déshonoré l'opérette joyeuse que vous avez rendue désespérée.
Allons, ne commencez pas à pleurer, c'est le contraire de ce que vous vouliez. Avez-vous essayé de vous chatouiller ?
Vous êtes un peu fada, non ? C'est à cause de Rigoletto et de Valkyrie que vous parliez de chatouille ? Ça ne me fait pas rire. Écoutez-moi bien, c'est maintenant ou jamais.
où vous mettez l'opérette à la place de Wagner et Mozart, où j'exécute les unes après les autres toutes les symphonies de Mozart, et après, on élimine un par un tous ces opéras. Alors, vous en dites quoi ?
J'en suis ravi.
Mais c'est Mozart qu'on assassine, là. Vous ne croyez pas que je mettrai ma menace à exécution, non ? Vous ne croyez pas que la force du destin est en marche ? Vous me prenez peut-être pour une cloche ?
Excusez-moi, on sonne. Je pense que c'est le journaliste de Paris Match. Je me demande s'il vient avec un photographe. Au revoir, cher monsieur.
Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Beignet ? C'est possible ?
C'est très touchant, en tout cas.
Bah, en tout cas, ça tombait bien. Mm-hmm. Non, c'est pas du tout ce que vous aviez imaginé.
Pas exactement.
On n'est pas dans la musique.
On n'est pas dans l'opérette provençale, en tout cas.
Vous avez un rôle à distribuer ?
Oui, je vais demander à Jacques Jouet de nous lire ça.
Bien.
Sans accent provençal.
Un autre, peut-être.
Donc, je décroche. Oui, qui est à l'appareil ?
Ici Rembrandt, vous êtes bien Léonard de Vinci.
Ah, vous êtes le journaliste de Paris Match ? Vous venez avec un photographe, finalement ?
Non, non, je m'appelle Rembrandt et je suis peintre, comme vous.
Enfin, je suis beaucoup plus que cela. C'est un terme réducteur en ce qui me concerne.
Oui, je sais, vous êtes savant, ingénieur, inventeur, anatomiste, architecte, botaniste, musicien, peintre, sculpteur, poète et philosophe.
N'oubliez pas l'urbaniste. Ça me paraît une chose extrêmement importante au point où nous en sommes. C'est pour ça que la une de Paris Match me paraît un très bon plan.
Écoutez, je suis navré, mais je ne travaille pas pour Paris Match. Mais si vous voulez, je peux vous avoir une page dans le bulletin paroissial de l'église Sainte-Dorothée d'Amsterdam. C'est une paroisse très dynamique.
Vous êtes gentil, mais ça me paraît d'un intérêt un peu limité. Mais c'est pas ça que vous vouliez d'abord me parler, je présume.
Non. Je suis peintre, comme je vous l'ai dit, et mon galeriste voudrait exposer la série de mes autoportraits. Seulement, il trouve que ces autoportraits sont un peu sinistres et que je ne souris jamais. Et il m'a dit, pour les sourires, demande conseil à Léonard de Vinci.
C'est en effet une de mes spécialités, avec l'urbanisme. Je suppose que votre problème, c'est d'être crispé.
Vous avez tout compris. C'est difficile de se concentrer et de peindre son autoportrait tout en souriant.
En plus, je suppose que vous auriez l'air idiot. Mais que voulez-vous que j'y fasse ?
Vous n'auriez pas un truc ? Comment faites-vous pour que vos modèles aient leur fameux sourire quand vous les peignez ?
D'habitude, je les frappe. Deux ou trois bonnes paires de baffes. Et puis, j'essuie leurs larmes. Et ensuite, bah, vous connaissez la chanson de Marie Dubois.
Le lendemain, elle était souriante. Oui, je comprends. Alors, c'est comme ça que vous avez fait avec Mona Lisa ? Mais comment voulez-vous que je me frappe moi-même avec le pinceau dans une main et la palette dans l'autre ?
Ah, ça, c'est votre problème, mon cher monsieur. J'ai jamais prétendu que c'était facile. Il faut du courage, de la force d'âme. Et puis je pense que la pratique de l'urbanisme facilite beaucoup les choses.
Vous savez, moi je vis à Amsterdam, c'est une ville pleine de canaux dont ma conception de l'urbanisme ne peut pas recouper la vôtre. Et puis tout ce que je veux, c'est faire des autoportraits souriants.
Allons, allons, commencez pas à pleurer, c'est le contraire de ce que vous vouliez. Avez-vous essayé de vous chatouiller ?
En me mettant les poils du pinceau dans les narines ? Mais c'est une idée ça, je vais essayer tout de suite. Merci Léonard, c'est mon galeriste qui va être content.
J'en suis ravi, mais excusez-moi, on sonne. Je pense que c'est le journaliste de Paris Match. Je me demande s'il vient avec un photographe. Au revoir, cher monsieur.
En piste, Jeanne Carillon. Jeanne Carillon, elle joue avec la vie des choses et ça se passe toujours en chanson. Alors, avec Jeanne, une chose va se raconter au quotidien. Vous êtes quoi, Jeanne ?
Je suis une planète, évidemment.
Mais oui, j'aurais dû le savoir.
J'ai la boule qui gravite, je ne sais plus où j'habite. Je cherche un bel orbite, la gravité m'excite. Ronde, je suis toute ronde, j'attends une rencontre au fond de ma galaxie. Je sais pas si c'est Saturne qui me regarde de travers, ou bien si c'est Mars qui me donne du tracas, qui me fout de l'eczéma. J'ai plein de flatulences qui emplissent mes cratères. Une recrudescence de gazodorifères qui empestent l'atmosphère. C'est gênant quand je digère. Ronde, je suis toute ronde, nauséabonde, au fond de ma galaxie. Je rêve de rencontrer un beau scaphandrier qui viendrait se poser sur ma matière soufrée sans se boucher le nez. Je rêve qu'il me mesure tous les coins de ma surface. Je monte en température s'il trifouille ma mélasse, s'il bidouille ma potasse. Moi qui suis à la masse et je suis tout ronde. J'ai une odeur immonde, une odeur immonde, monde qui m'inonde et je suis tout ronde. J'ai rien de la Joconde, personne à la ronde. Je suis tout ronde, j'ai la sphère qui cocotte. Je voudrais seulement frémir sous l'onde d'un cosmonaute, sachant s'apesantir.
C'est l'heure, Odile Conseil, Serge Joncourt, Jacques Bertrand. Ils sont encore dans l'émotion de ce qu'ils viennent d'écrire. Ils vont nous bouleverser. Serge n'a pas numéroté ses pages, il en a 15. Toujours un peu le problème avec Serge. Voilà. Mais j'avais envie de commencer par vous, en plus, Serge, pour une fois. Alors, rappelez-nous les mots qui vous sont arrivés, parce que je ne les ai pas notés au moment du tirage au sort.
Les mots, elle est bien de mémoire, il y avait le balai,
oui.
Le gratin.
Oui, et la poire.
Et la poire qu'on gardera pour le dessin.
Alors, vous avez supprimé un des personnages ou pas ?
Il est possible qu'il en manque un. la poire était un peu passée à l'as, mais...
D'accord. Mais en principe, les personnages doivent se retrouver dans le titre.
Le gratin et le balai.
Ah voilà, comme ça, tout va bien.
C'était prévu.
Alors, vous placez la moralité au début ou à la fin ?
Je la place assez haut. non, à la fin.
Très bien, on vous écoute.
Un balai endimanché allait de par les rues quand il croisa un gratin qui allait pas fort non plus. Oh là, du balai ! Lui lança le gratin. Et à ces mots, le balai rebroussa le chemin. Mais non, du balai, voyons, restez. Je disais, du balai, manière de se présenter. Si vous fuyez déjà, il n'y aura pas de fable. Et pour aider l'auteur, il faut venir à ma table. C'est ainsi que nos deux amis enchaînèrent les vers, scellés par le sort commun de versifier ces vers. Et plus les vers allaient, et plus le balai se dressait, alors que le gratin, à l'inverse, se tassait. Notre balai, tout à l'heure si timide et délicat, voilà qu'avec divers dans le nez, il tutoyait l'au-delà.
Ah bah, abus d'alcool, hein. C'est...
Alors que le fier gratin ne cessait de se délayer, si bien qu'au bout de divers de vin, il redevint purée.
Oh, c'est le plus joli vers, je trouve.
Oui.
Hein, oui. C'est vrai, il y a des gens qui ont tenté d'applaudir.
Ils ont tenté. Ben oui, moi aussi, j'ai cru que c'était le dernier. Puis en même, non.
Moi, j'ai même cru que c'était la moralité.
Oui, oui, non, c'est...
Bon.
Ça serait bien.
On continue. Donc,
oui.
La purée.
Oui, la purée.
Ouais.
Notre héros bienveillant balaya de sa palle notre ami et il remonta comme ça toute la rue pour le ramener chez lui. Mmh. Moralité, ne vous fiez pas aux apparences. Ça, c'est...
Non, c'est pas faux. Hein.
C'est pas faux, c'est nouveau. Ça. Ne vous fiez pas aux apparences. Si le balai n'est que paille et le gratin gratiné, donnez-leur 10 verres de vin et tout sera inversé. Oui, moi, pardon.
Non, mais il y a du boulot, hein.
Je ne suis pas sûr qu'elle était dans l'ordre. Je me rends compte.
Vous nous la referez un jour. Oui. Odile Conseil, est-ce que ça s'est bien passé?
Ça s'est passé.
Avec quel personnage, rappelez-nous?
Donc, pour mémoire, j'avais tiré bol bleu et croûte. J'ai gardé essentiellement le bol et la croûte. Mais si ça vous fait plaisir, on peut dire que le bol est bleu. Donc, ça peut être le bol bleu et la croûte. Ouais. Ça pourrait être aussi le bol et la croûte et le nougat raw.
Ah, vous allez chanter?
Non, pas vraiment. Je vais... Le slamé où vous chantez juste le premier vers pour vous faire plaisir, ouais. Si vous voulez, Françoise.
Non, mais vous parlez de Nougaro, c'est pour
oui,
ça,
mais
c'est
parce que ça commence dans une ferme de Paimpol. Ah. Une croûte émet un grand bol. Là, je le dis maintenant. Il voisinait dans une armoire. Elle, oubliée, il y a des soirs. Lui, bien rangé près des passoires, ramené l'an dernier de Valoir. La croûte disait « Ah, quel beau bol !» De le voir, ça me rend vraiment folle. J'aimerais sauter dans ses bras, mais des bras, hélas, l'en a pas. J'aimerais lui mettre le grappin dessus, mais comment sauter par-dessus? Elle imaginait, mit le plan, pour lui faire du rentre-dedans. Et si je tentais la face nord? Mais il semble que ça glisse fort. Tandis que la croûte s'enflammait, tandis que la croûte s'emballait, le bobole, lui, il s'en foutait, car son cœur était occupé. Il lorgnait la bouteille de lait. Il aimait son air écrémé. Et chaque nuit, oui, il rêvait qu'au-dedans le lait lui coulait, que tout entier, il l'emplissait. Toute sa faïence en frémissait, au point qu'un jour, les ciraviers, avec lesquels il voisinait, crièrent qu'ils en avaient assez. C'est vrai qu'ils méprisaient le lait. Eux, ils rêvaient de canapés, et de biscuits apéritifs, enfin quelque chose de festif. Dans une ferme de Paimpol, une croûte émet un grand bol. Il est temps de venir à bout de cette histoire de rien du tout. C'était la foire dans l'armoire, tout le monde s'insultait dans le noir. Et voilà comment ça finit. Il arriva qu'une souris, qui cherchait un bon restaurant, sauta sur la croûte goulûment. Mais elle renversa le lait et la croûte s'en trouva noyée. « Tiens, croûtelet, dit la souris, ça me tiendra jusqu'à midi. » Elle en fit 2 ou 3 bouchées, qu'elle n'eut pas de mal à digérer. De ce jour, la croûte n'eut plus le cœur défait, le cœur déçu. Quant à l'autre objet, le beau bol, tout plein de soupe, il se console. Moralité. Ami, toi dont le palpitant s'en va parfois clopin-clopant, du désespoir débarrasse-t'en, car tout passe en mangeant.
Ils sont très forts quand même, hein, parce que ça a l'air facile, mais non, il faut essayer un jour comme ça en une demi-heure. Jacques Bertrand, c'est à vous. Vous aviez la pente, la fuite, je ne sais plus qui était le troisième.
La tuile, mais.
La tuile.
Elle a glissé. Donc.
Donc on reste avec la pente et la fuite.
La fuite et la pente. Mmh. Une fuite s'était échappée de prison. À Venise, c'était au plomb. Une prison 100 fois maudite, bien connue de Casanova. De là, lorsqu'on est une fuite, on choisit d'aller en avant. Elle prit, sans perdre de temps, toutes ses jambes à son cou. Elle en avait plusieurs. Et c'est fou qu'on puisse courir aussi vite. Mais bientôt son souffle s'épuise et notre fuite... ralentit, son pas s'amenuise, elle s'assoit dans le fossé, dans l'idée de se reposer. Une pente se trouvait là. C'était une pente très douce. Elle prit la fuite en pitié, la fille s'allongeait dans la mousse, celle de son meilleur fossé. Elle échappa aux policiers. Moralité, lorsque vous sortez de prison, surtout prenez votre temps. Si vous voulez gagner la course, choisissez une pente douce et remontez-la doucement.
Bravo. Alors en place pour experts contre faussaires, ceux qui nous écoutent connaissent ce jeu, c'est un jeu de culture et de bluff pour pasticheurs habiles et rusés experts. Alors les pasticheurs, je vous les présente, Patrick Beignet, Odile Conseil, Jacques Vallée. Les experts, c'est un tandem qui a déjà fait ses preuves lors d'une séance publique précédente à Lamballe, donc c'est Jacques Bertrand et Serge Jeancourt. Alors, en quoi consiste ce jeu ? Nous nous sommes réunis il y a quelques jours. Il y avait donc Patrick Beignet, Odile Conseil, Jacques Vallée, Eva Almassy et moi. Nous étions en studio. Et Eva Almassy avait apporté une certaine œuvre avec laquelle elle voulait que nous jouions. Donc, elle a résumé un petit peu cette œuvre. Elle a situé l'ambiance du début, l'ambiance de la fin. Et immédiatement, et en une demi-heure, nos pasticheurs, Odile, Jacques et Patrick, ont écrit ce qu'ils pensaient être les trois phrases de début, les quatre phrases de la fin de l'œuvre en question. C'est ça le jeu. Ils sont écrivains, ils sont extrêmement cultivés, donc même s'ils ne connaissent pas bien l'œuvre, ou même pas du tout, ce qui était le cas, ils sont capables d'écrire un habile pastiche, d'imiter le style de l'auteur en jeu, parce qu'ils l'ont lu, déjà. Alors, ne nous trompons pas, Jacques Bertrand et Serge Jeancourt sont aussi écrivains et très cultivés. Et ils sont capables, pas toujours, on a vu précédemment que ça ne marche pas. Tous les coups, il y a des gens dans la salle qui s'en souviennent, qui vous ont écouté à la radio. Eh bien, quelle sera leur mission ? Leur mission consistera à reconnaître les phrases de l'auteur parmi les fausses, parmi les pastiches. Et puis, ils devront attribuer à chacun ce qu'il a écrit. Donc, voilà les quatre textes en jeu. Et on va jouer avec. Mais avant, il faut que Eva Almassy vous mette et mette les experts dans la confidence, parce que les experts découvrent tout en même temps que vous. Alors, il s'agit de quelle œuvre, Eva ? Avec quoi on va jouer ?
Mais j'ai choisi une œuvre pour célébrer l'anniversaire de naissance de Corneille. Parce que c'est le 406e anniversaire de sa naissance.
Ah ben c'est un anniversaire à fêter. Ah ben non, voilà. Vous avez raison. Oui.
Il est né le 06-06-1606. Si.
Ah oui.
À Rouen. Et c'est une très belle date pour le théâtre, car au moment même où le petit Corneille pousse son premier cri, Shakespeare écrit Macbeth. Alors, s'il ne fallait pas fêter ça.
Oui. Oh, c'est une très bonne idée. Vous avez pris le Cid ?
Alors, non. Ah non, trop facile. Ouais. Non, j'ai pris une tragédie en 5 actes, écrite en 1664 et tirée des histoires de Tacite, et qui se passe à Rome en l'an 69, année érotique. Ça s'appelle Othon. En fait, Othon est si peu connu que quand on dit Othon, les gens pensent d'abord au chien labrador du même nom de Valéry Giscard d'Estaing.
Ah bon?
Il faudra vérifier. Parce que Othon n'a eu aucun succès jamais et n'a été à l'affiche qu'une seule fois du vivant de Corneille et guère plus depuis. Hein.
Il y a eu un remake qui a bien marché,
il y a eu
qui s'appelait Othon en emportant.
Mais attention, Corneille disait, quant au vers, on n'en a point vu de moi que j'ai travaillé avec plus de soin. Les faussaires avaient donc 30 minutes pour bien soigner leur propre vers cornélien. Mmh. Alors dans cette pièce, il y a plein de messages subliminaux à l'adresse du pouvoir en place, qui était le cours de Louis XIV, mélange d'enjeux politiques et de jeux amoureux. En résumé, ça ne va pas très fort dans l'Empire. Il y a des problèmes avec la Syrie et la Gaule et la Germanie unie menace Rome. Il y a 2 candidats qui s'affrontent pour le poste de l'empereur, Othon et un homme de paille Pison. Ils veulent arriver par des alliances et par le mariage. Alors, il y a 2 dames à marier. Il y a Camille, la nièce de l'actuel empereur, et Plotine, la fille d'un ministre. Pour ces deux dames, il y a trois prétendants. Othon, Bison et Martien.
Ça va, Serge ?
Chaque combinaison de couple peut faire accéder à la couronne. Othon veut épouser Plotine, Martien veut aussi épouser Plotine et Bison veut épouser Camille. Mais Othon a un ami, Albin, qui le pousse à quitter Plotine et à épouser Camille. Camille aime Othon et refuse d'épouser Bison. Mais Plotine, qui aime aussi Othon, refuse d'épouser Martien. Alors l'empereur décide finalement de donner Plotine à Bison. Mais Bison est tué par les soldats qui élisent Othon empereur, car l'actuel empereur...
Ne va pas trop vite, s'il te plaît.
Et son consul, c'est trop tard. Ils sont aussi assassinés. Plotine promet de devenir l'épouse d'Othon, mais seulement après la pièce et le cinquième acte, car, et je cite Corneille, « Je puis dire qu'on n'a point encore vu de pièce où il se propose tant de mariages pour n'en conclure aucun. » Alors maintenant...
Oui, situez-nous un petit peu l'ambiance du début, l'ambiance de la
le
fin.
Le début. Là, ça va être beaucoup plus simple.
Là, vous pouvez vous concentrer, Serge et Jacques.
Là, notez oui. bien. Le début. Trois Alexandrins, où c'est Albin, donc son ami, Albin, qui interpelle Othon.
Ah, c'est simple.
Il lui demande pardon de son impertinence, mais il compte bien poser à son ami des questions qui fâchent, même s'il est sûr d'attirer une volée de bois vert.
C'est précisément ce qu'Eva a dit à nos trois pasticheurs.
Hein? Oui.
Tout compris, Jacques ?
Il n'en savait pas plus que vous, là. Et c'est pas beaucoup.
Il s'en aperçoit.
Alors, la fin.
Oui.
À la fin, il y aura quatre Alexandrins prononcés par Othon qui s'adresse à Albin. Comme il est devenu empereur sans le mariage, il promet d'aller voir, après son sacre, cette pauvre Camille délaissée. Ça va ?
Oui.
Note importante, le premier de ces quatre Alexandrins commence par une locution conjonctive. Vous savez ce que c'est ? Alors, c'est de type de peur que, de crainte que, à seule fin que, pour que...
Voilà. Ne les notez pas toutes, Serge. Voilà.
Eh
ben, c'est bon, tout. Excellent résumé. Ça donne envie de lire Othon, non ? Ouais. Alors maintenant, il va falloir identifier Corneille et puis rendre à Jacques Vallée, rendre à Odile Conseil, rendre à Patrick Beignet ce qu'ils ont écrit. Alors je mélange, on va distribuer au hasard et comme il faut un quatrième lecteur, je serai la quatrième lectrice. Prenez un texte chacun. Voilà, vous m'en laissez un. Ah voilà, on espère que vous êtes en grande forme, Jacques, Serge. Oubliez les échecs passés. On joue avec Corneille et ça va être glorieux. Ne partez pas, Serge, ne partez pas. C'est un jeu difficile, hein ? Très difficile. Un premier lecteur, un premier texte, de qui est-il ? On ne le sait pas. Jacques Vallée, le lit.
Le début. Quoi, vous croyez, Seigneur, à mon impertinence, quand je ne veux chanter qu'un excès de vaillance ? Vous m'en voulez pourtant et le faites sentir. Mm-hmm. Et la fin, pour que mon règne, enfin, sous les meilleurs auspices, s'engage et satisfasse au cœur des aruspices, de la triste Camille, en son palais romain, j'adoucirai le sort. Tu peux m'en croire, Albin.
C'est bien fait, hein ?
Ouais, c'est du beau boulot. Ouais. Fini sur Albin.
Si mon oreille est bonne, il y avait 12 pieds à chaque vers.
Mais ça va vite aussi, j'ai pas eu le temps. Oui.
Vous n'avez pas eu le temps de compter. Non. La musique vous semble conforme ?
La musique est parfaite.
Oui, oui, oui. Belle musique. Belle musique.
Très bien
orchestrée. rien à dire. Belle adagio.
Non, c'est bien fait.
Oui, oui, oui.
Vous avez compris tous les mots ?
Oui, on a compris.
J'ai un peu oublié ce qu'étaient les aruspices.
Ah, bah, oui. C'était des ministres, je crois, qui voyaient l'avenir dans les entrailles.
Ah oui.
Des animaux, me semble-t-il.
Ok, c'est un indice. Non, mais pardon, je m'excuse, mais j'en suis là. Mais en même temps, c'est le premier, il y a les trois autres.
Hein. Oui, vous voulez vous chauffer doucement, quoi.
Ça pourrait quand même.
Ça pourrait.
Ça pourrait, quoi.
Hein. Ouais. Ça pourrait.
Ça pourrait être du Jacques Vallée. Enfin, ça pourrait être...
On passe à un deuxième texte. Odile Conseil.
Pardonnez, beau Seigneur, une telle insistance. Vous y verrez sans doute folle impertinence. Votre cœur penche-t-il du côté de Camille ?
La fin. Le début, oui.
Dès que tout Rome enfin me verra empereur et que chacun ici m'appellera Seigneur, j'irai sur mon honneur Camille visiter, apaiser ses tourments, lui faire quelque bonté.
Oui, bon, oui.
Vous trouvez ça rigolo ?
Non, mais il faut être indulgent. Il n'avait que 30 minutes. C'est vrai.
Oui, 30 minutes, oui. C'est vrai. Oui.
Alors que Corneille lui-même a dû prendre...
Un peu plus.
Une bonne heure.
Probablement.
Une bonne heure. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte ?
Oui, non, c'est sympathique. Bon. Alors, beau Seigneur, j'y crois pas. Ça, je...
Ouais.
En même temps, c'est généreux, si vous voulez. Hein, c'est de... Parce que non, j'essaie non plus de ne pas être trop... C'est le problème de jeu, si vous voulez. Autant il est difficile de dire du mal de Corneille, autant il est compliqué de dire du mal des autres. Alors, l'avantage qu'on a, c'est que Corneille n'est pas prêt de venir s'en plaindre, alors que les trois autres, on est amené à se revoir, quand même. Alors, si vous voulez, beau Seigneur, c'est lyrique, c'est bien senti, hein, c'est bien... Mais ça peut pas, ça c'est pas Corneille, ça c'est...
Vous trouvez que c'est pas assez respectueux pour du Corneille ?
C'est pas assez, ça manque de coffre, c'est pas assez ambitieux, vous voyez. Si vous voulez, avec ces armes-là, on fait pas 5 actes. Quand on... Si dès le premier vers, on flanche sur le beau Seigneur, j'aimerais bien voir la tête du troisième. Non.
Moi, ça ne me gêne pas particulièrement, le beau
Seigneur.
Oui,
Jacquard. Bon, pour le moment, vous ne vous prononcez pas vraiment, mais non, vous excluez un petit peu Corneille, tous les deux, Jacques Bertrand aussi, non ?
Non, pas encore, non.
Lui, non, moi, oui, mais...
De mauvaises expériences, nous...
Patrick Beignet nous lit le texte qu'il a sous les yeux.
Votre amitié, Seigneur, me rendra téméraire. J'en abuse, et je sais que je vais vous déplaire, que vous condamnerez ma curiosité. La fin ? Afin qu'à mon retour, l'âme un peu plus tranquille, je puisse faire effort à consoler Camille et lui jurer moi-même, en ce malheureux jour, une amitié fidèle au défaut de l'amour.
Ah, ça plaît, hein ? Ah ouais ? Hein ? Ah oui, c'est un beau texte. Hein. Non, mais ils écrivent bien, tous les trois. Hein. Jacques Bertrand, que pensez-vous de ce texte ?
Très bien aussi, là. Très bien fait. Il me semble qu'il y a 12 pieds à chaque vers.
Oui, je vous ai vu compter un petit peu comme ça. Oui,
oui, parce qu'il y a curiosité.
On doit dire curio, c'est ça. On ne peut pas demander à Jacques Jouet, il est occupé.
Mais les classiques écrivaient des vers en détachant les mots comme ça, les syllabes.
Les syllabes,
comme ça.
Oui.
Serge
Joncourt.
Non, mais le dernier vers là, propose l'amour à défaut de l'amitié.
Rappelez-nous le dernier vers.
Il est magnifique.
Une amitié fidèle au défaut de l'amour.
Oh, dis donc.
Vous allez vous en resservir.
Ouais,
Moi, j'aurais écrit « à défaut de l'amour », mais...
Oui, mais c'est ça, mais... Oui.
Mais justement, Corneille...
Corneille, oui. Finissez vos phrases. Oui, non, je vois ce que vous voulez dire, oui. Il n'aurait pas écrit ça. Non, mais...
Non, mais alors, moi j'avais compris le contraire. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jacques, justement ?
Je n'en suis pas sûr.
Oui.
Je dis, moi j'aurais écrit à défaut d'une amitié, à défaut de
l'amour.
De l'amour.
Oui, mais toi, t'es pas
Corneille.
Mais. Non,
ouais.
Ça, c'est. Bon, on n'a pas le texte sous les yeux, il faut le dire, donc c'est assez difficile. Et donc, il en reste, comme ça imprime à la mémoire une sorte de musique de parfum, de fragrance, voilà.
Tout, une
sorte d'encens. Au théâtre non plus, on n'a pas le texte sous les yeux.
Ah oui ? Parfois, c'est sous-titré. On fait des progrès. Non, mais au théâtre, si vous voulez, la différence avec ce jeu, c'est qu'au théâtre, quand on va voir la pièce, on sait de qui est l'auteur. En général, hein. Alors que là, on en a quatre.
Bon.
Non, si vous voulez, bon, restez au niveau de la première impression. Moi, je suis assez impressionné par cette...
Impressionné
par,
tous les
par
deux.
Par cette facture, hein, par cette... oui.
Ouais.
En plus, bon, bah, les intentions, si vous voulez, du texte, ils sont toutes. La fin est magnifique. Alors, bon, s'il y en a un parmi nous qui est capable de faire ça, la barre est haute. Hein.
Vous voulez écouter un quatrième texte ? Même si je dois subir, Seigneur, votre fureur, pardon de dire ici ce qui m'étreint le cœur, jamais cet Hyménée ne peut donner l'empire. Et la fin ? Afin qu'en ce grand jour qui me voit couronné, les dieux soient remerciés de ce qu'ils m'ont donné, allons trouver Camille et calmons ses alarmes. L'empereur doit pouvoir faire oublier les larmes. Oh, c'est beau, non,
c'est de... Oui, oui, hein, c'est beau. C'est,
En tout cas, ils ont tous bien saisi le sens de la pièce. Hein.
Oui. Oui, ils étaient en forme ce jour-là, éveillés, attentifs. Ça sent quand même la bonne copie. On va, pour faire d'origine, hein, ça fait un peu voiture maquillée quand même, parce que on va caser Hyménée, on va caser Alarme. On va... Alors, bon, ça dénote une belle culture. Ça, mais bon, ça fait un peu quand même... Il y a quelque chose de frelaté dans ça.
Ah bon ?
Oui, oui, oui. C'est l'instinct qui parle. Hein, c'est le,
d'accord, vous sentez le trucage.
Le chasseur, oui, vous savez, c'est un peu comme aux truffes. Le chien, d'ailleurs, ou le cochon, on peut y aller au cochon, ne sait pas vraiment ce qu'il cherche. Hein, c'est simplement, il sent bien qu'à un moment où il a mis le doigt dessus... enfin bon, je ne veux pas non plus vous raconter mes vacances. Mais pour moi, je la flaire pas.
Pas, ce ne serait pas du Corneille.
Non, champignon de Paris.
Vous refusez de le bailler à Corneille.
Pour vous, Jacques Bertrand.
Alors, moi, je suis un peu maniaque. Il y a deux textes où j'ai cru, parce que je peux me tromper, évidemment. Je peux bafouiller des oreilles. J'ai cru repérer un vers faux.
Ah, dans celui-là ?
Oui. Donc pour moi, j'aurais tendance à éliminer le dernier que vous venez de lire.
Ce ne serait pas du Corneille.
Et celui qui a lu Odile.
D'accord. Et le doute subsisterait donc entre...
Pas sur la qualité ni sur le sens, parce que tous les textes sont très bien. Mais...
Il ne veut pas se fâcher.
Mais il y en a quand même deux qui sont au-dessus.
Voilà.
On vous offre un deuxième tour.
D'accord.
D'accord, Jacques. Mais là, il faut statuer au fur et à mesure. Et c'est là que je vais vous demander votre avis aussi. Jacques Vallée.
Quoi, vous croyez, Seigneur, à mon impertinence, quand je ne veux chanter qu'un excès de vaillance ? Vous m'en voulez pourtant et le faites sentir. Et la fin ? Pour que mon règne enfin sous les meilleurs auspices s'engage et satisfasse au cœur des aruspices de la triste Camille en son palais romain, j'adoucirai le sort, tu peux m'en croire, Albin.
Alors, Jacques Bertrand.
C'est pas mal, hein.
Oui.
Je pense un peu depuis le début que ça pourrait être ça, le Corneille. Ouais. Mais j'aimerais bien entendre le texte lu par Patrick.
Voilà, alors, lisez votre texte, Patrick, et on reviendra vers vous.
Votre amitié, Seigneur, me rendra téméraire. J'en abuse, et je sais que je vais vous déplaire, que vous condamnerez ma curiosité. Afin qu'à mon retour, l'âme un peu plus tranquille, je puisse faire effort à consoler Camille et lui jurer moi-même, en ce malheureux jour, une amitié fidèle au défaut de l'amour.
Alors, Jacques Bertrand.
Ah, je choisis Corneille, Jacques Vallée.
Donc Jacques Vallée aurait lu du Corneille.
Oui, du Corneille, allez.
D'accord.
Corneille. Pierre.
Pierre. Il y a des gens dans la salle qui disent non, je ne sais pas quoi. Serge Joncourt, d'abord.
Non, pour moi, j'allais dire presque dès le départ, j'ai senti dans la lecture de... Enfin, le texte que lisait Jacques Vallée, j'ai senti du Jacques Vallée.
Mm-hmm.
Hein, parce que... tu peux m'en croire... Enfin, le
tu dernier, peux m'en croire, Albin.
Oui, le dernier vers est un petit peu expédié, quand même. Bon, il a tenu hein, jusque-là, mais bon... Il y en aurait eu trois. Oui, comment ?
Ça n'est pas la fin de la pièce.
Ah si ?
Oh, bah, si
c'est la fin de la pièce.
Bah, oui.
Ah
bah, oui.
Ah bah non. Non, écoutez,
coucou,
je quitte ce jeu.
Non, j'ai cru que c'était dans le cinquième acte, mais pas à la fin.
Ah non, mais si.
Mais est-ce que cet expert est certifié au pas de...
Non, il est sympathique. Oui, hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Serge ? On conseille donc du Jacques Vallée pour vous ?
Oui, tout à fait, j'en étais là. Oui, oui.
Bien. Nous avons un Jacques Vallée, nous avons un Corneille. Alors, dans la salle, je vais vous demander, est-ce que ce texte que vient de nous lire Jacques Vallée est de Corneille ? Alors, si vous pensez oui, vous dites oui. Les noms s'abstiennent. C'est du Corneille ? Oh, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont d'accord avec vous, chacun. Il y en a peut-être trois. Il y a peut-être une grosse majorité silencieuse qui préfère ne pas dire ce qu'elle pense. Est-ce que ce texte que Jacques Vallée vient de lire, c'est du Jacques Vallée ?
Oui.
Un peu plus. Est-ce que ça pourrait être du Odile Conseil ?
Oui.
Ah, ça oui, se partage. Enfin, oui. Et est-ce que c'est du Patrick Beignet ?
Oui.
Oh, il y a un monsieur qui pense. Alors, ça vaut une grosse cote. Hein, c'est une grosse cote. Est-ce que c'est du Racine ? Bon, donc, on va dire qu'il y a un monsieur qui pense que c'est du Beignet. Hein. Je le note quand même. D'accord, on passe au texte suivant, Odile Conseil.
Le début, donc. Pardonnez, beau seigneur, une telle insistance. Vous y verrez sans doute folle impertinence. Votre cœur penche-t-il du côté de Camille ? Et la fin ? Dès que tout Rome enfin me verra empereur et que chacun ici m'appellera seigneur, j'irai sur mon honneur Camille visiter, apaiser ses tourments, lui faire quelques bontés.
Voilà. Vous aviez dit beau seigneur, j'y crois pas. Apparemment, vous n'y croyez pas non plus.
Non, mais... Alors, on prend grand soin de Camille quand même. On sent, si vous voulez, une sorte d'intention de solidarité. Hein? Féminine,
je vois venir.
Dans la peine, et bien, des quatre, il y a donc... Non, il me semble que c'est Odile, parce qu'il y a cette valeur d'humanité. vous voyez mais c'est, en tout cas, c'est pas...
C'est la grande fille du Nord, toute simple.
Vous êtes expert ou témoin, déjà?
Procureur, en l'occurrence. Non, c'est Odile.
C'est Odile Conseil pour Serge Janco, pour Jacques Bertrand.
C'est pas Corneille.
Non.
Et je serais assez d'avis que c'est du Conseil.
Que c'est du Conseil. Alors, un petit oui. argument pour
Oui.
C'est plus dur. Hein.
Dans le ton. Mais c'est une impression, je peux me tromper.
Oui. Donc, comme nous avons deux Odile Conseil.
Je rappelle que Conseil rime avec Corneille, hein, quand même.
Oui. Oui, bien sûr.
Alors, dans la salle, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est du Corneille? Est-ce que c'est du Beignet ?
Oui.
Ah ? Est-ce que c'est du Vallée ?
Oui.
Ah, monsieur, c'est le même qui... Il est toujours tout seul contre tous. Est-ce que c'est de l'Odile Conseil ?
Oui.
Ah. Mais vous n'êtes pas influencé par les deux, là, parce qu'ils se trompent, hein, des fois. Hein. Non ? Bon, très bien. Donc, la salle vous approuve. Patrick Beignet, vous nous relisez le texte qui est sous vos yeux.
Votre amitié, Seigneur, me rendra téméraire. J'en abuse et je sais que je vais vous déplaire, que vous condamnerez ma curiosité. Afin qu'à mon retour, l'âme un peu plus tranquille, je puisse faire effort à consoler Camille et lui jurer moi-même en ce malheureux jour une amitié fidèle au défaut de l'amour.
Jacques Bertrand. C'est de qui, alors ?
C'est pas de Corneille.
Non, vous l'avez dit.
Et je pense que c'est de Patrick Beignet.
De toute façon, là, il n'y a plus le choix.
Y a une... c'est, il est très bien fait. j'ai accroché sur l'histoire de... Je peux me tromper sur au défaut de l'amour.
Au défaut de l'amour. Vous pensez que Corneille ne se serait pas permis ça ?
Je ne sais pas, ou alors ce serait une subtilité qui m'aurait échappé, mais... de toute façon, il faut se lancer. Moi, je pense que c'est Patrick. Oui.
Très bien. Serge Janco.
Oui, parce qu'il y a une puissance, un lyrisme, il y a du coffre, quoi. Il y a du coffre, c'est iodé, c'est iodé. Hein, c'est Patrick, c'est Beignet, c'est la Bretagne, Non, mais enfin, c'est remarquable. Hein,
Non, il y a une belle qualité de tous les textes, vous ne trouvez pas ?
De tous les textes, oui, mais enfin, il y en a quand même deux qui sont...
On vous a bien compris. Alors, dernier texte. Ah non, je ne vous ai pas demandé votre avis, pardon. Est-ce que c'est du Beignet ?
Non.
Non. Est-ce que ce serait de Corneille ?
Oui.
Ah. Bien, je vous lis le dernier texte. Même si je dois subir, Seigneur, votre fureur, pardon de dire ici ce qui m'étreint le cœur, jamais cet Hyménée ne peut donner l'empire. Et la fin ? Afin qu'en ce grand jour qui me voit couronné, les dieux soient remerciés de ce qu'ils m'ont donné, allons trouver Camille et calmons ses alarmes. L'empereur doit pouvoir faire oublier les larmes.
Ouais, c'est
très beau.
C'est charmant.
C'est très beau.
Oui, c'est charmant.
C'est sentimental.
C'est joli. Camille, calmons, non ?
Il y a un côté sentimental sous lequel on sent une certaine fureur, le mot est prononcé.
Oui.
Je verrais bien Jacques Vallée là-dessous.
Oui. C'est tout Jacques Vallée, ça.
Oui. Oui. J'ai dit Jacques Vallée déjà ou pas ?
Ah, vous avez déjà voté pour Jacques Vallée ?
Ah bon ?
Pour le premier texte en disant que c'était du beau boulot. Alors, vous, il vous reste Corneille.
Oui. Ah, je suis pas. J'ai une technique d'expertise qui n'est pas encore complètement aux normes. Mais tiens, ce serait donc Corneille. Enchanté.
Allez, va pour Corneille. Plus le choix. Qu'est-ce que vous en pensez dans la salle, Corneille ? Il y a quand même des Corneilles. Hein. Ça se partage entre deux textes, les Corneilles. Et Jacques Vallée ? Tu peux, hein, pas
oui,
beaucoup.
Oui,
hein.
C'est Jacques Vallée, oui.
Odile Conseil ?
Oui.
Ah, et qui j'oublie, là ? Patrick Beignet ?
Oui.
C'est très partagé, hein, sur ce texte. On n'est pas bien sûr, là. Ben, c'est l'heure du verdict.
Il n'y a pas un troisième tour, non ?
On dépouille, non ? Jamais, jamais. Alors, qui a en main le texte de Corneille ?
C'est moi.
C'est Patrick Beignet, oh, bravo ! Bravo, bravo. Bravo à la salle qui a majoritairement voté pour Corneille. On le réécoute parce qu'il est beau ce texte.
Il est très beau.
Votre amitié, Seigneur, me rendra téméraire. J'en abuse et je sais que je vais vous déplaire, que vous condamnerez ma curiosité. Afin qu'à mon retour, l'âme un peu plus tranquille, je puisse faire effort à consoler Camille et lui jurer moi-même en ce malheureux jour une amitié fidèle au défaut de l'amour.
Et voilà, Jacques Abertrand. Oui, oui. Peut-être qu'au 17e, on disait « au défaut de l'amour ».
J'aurais repensé à curiosité, j'aurais dit Corneille.
Et oui,
je me suis braqué sur « au défaut ».
Parce que ma curiosité, oui. Voilà. Seul Corneille pouvait oser, c'est ça.
On écrivait comme ça de son temps. Et les rimeurs d'aujourd'hui, les rimailleurs d'aujourd'hui ne le font plus.
Ouais.
Et j'aurais dû reconnaître que... comme je ne doutais pas que Patrick Beignet puisse écrire de très beaux alexandrins.
Ben voilà, donc Patrick Beignet, vous avez été pris pour Corneille,
deux fois,
par Serge et Jacquat.
Oui. Enfin.
Non, par moi seulement.
Ah bon ? Eh bien, ce qui est sûr, je l'ai dit, ça, c'est que le tout dernier vers est de Corneille. Ça, c'est... Après. Mais
peut-être que vous allez vous rattraper avec les autres textes.
Je crois que ça sera assez mal parti quand même.
Ah, ça commence par un zéro, mais qu'est-ce que c'est qu'un zéro, hein ? Jacques Vallée, relisez le texte que vous nous aviez lu et vous nous direz après de qui il est.
Quoi ? Vous croyez, Seigneur, à mon impertinence quand je ne veux chanter qu'un excès de vaillance ? Vous m'en voulez pourtant et le faites sentir. Pour que mon règne, enfin sous les meilleurs auspices, s'engage et satisfasse au cœur des aruspices, de la triste Camille en son palais romain, j'adoucirai le sort. Tu peux m'en croire, Albin.
C'est de qui ?
Patrick Beignet.
Mmh. Eh ben voilà, monsieur. Ah, bravo, vous étiez seul contre tous. Bravo, monsieur.
Mais c'était l'un ou l'autre ?
C'était l'un ou l'autre,
c'était
mais...
C'était ce texte.
Oui, Corneille, vous aviez hésité entre les deux.
Voilà. Oui, entre Corneille.
Je pense que Patrick Beignet est un type très proche de Pierre Corneille.
Oui, toujours,
Pierre
on
Corneille,
hésite toujours.
Hein.
Oui, je sais. Hein? Plusieurs fois au théâtre, je dis, tiens, non, c'est de Corneille. Ah, mais c'est de Beignet. Ah bon, le cidre, mince. Bon boulot.
Le cidre.
Brut, hein, le cidre.
Bon, ça, pour le moment, vous êtes parti sur un 50%, peut-être. Hein,
50%
d'échec. Mais vous avez 0 sur 50 pour le moment. Alors, Odile Conseil, relisez le texte que vous aviez si bien lu.
Pardonnez, beau seigneur, une telle insistance. Vous y verrez sans doute folle impertinence. Votre cœur penche-t-il du côté de Camille ? Dès que tout Rome enfin me verra empereur et que chacun ici m'appellera seigneur, j'irai sur mon honneur Camille visiter, apaiser ses tourments, lui faire quelques bontés.
C'est de qui ?
Bien, je suis heureuse avec ce texte plein d'humanité de donner un point aux deux experts.
C'est donc Odile Conseil, bravo ! Et la salle était assez d'accord. Hein. Voilà. Bah, elle a un style qu'on identifie.
Oui, c'est un peu au-dessus, quoi. C'est vivant, c'est... Il y a de la fibre, c'est du vécu, là, pour de vrai.
Alors, je vous lis le dernier texte. « Même si je dois subir, Seigneur, votre fureur, pardon de dire ici ce qui m'étreint le cœur, jamais cet Hyménée ne peut donner l'Empire. » La fin. « Afin qu'en ce grand jour qui me voit couronné, les dieux soient remerciés de ce qu'ils m'ont donné, allons trouver Camille et calmons ses alarmes. L'empereur doit pouvoir faire oublier les larmes. » C'est du Jacques Vallée. Oui. Bravo, Jacques Bertrand. Jacques Bertrand.
J'ai la moyenne.
Oui, vous avez reconnu Odile Conseil et Jacques Vallée. C'est pas mal. Serge, bon, je pense, on va pas faire les comptes.
Hein. Non, non,
pas.
Non.
Ce serait mesquin.
Non, c'est pas ça. Première intention. Mesquin. Non, j'avais tout trouvé. C'est le problème des fiches, vous voyez. Je numérote jamais.
Qu'est-ce que, Eva Almassi, qu'est-ce que vous avez pensé des experts ?
Ah ben, moi, je suis en tout cas extrêmement bluffée par les faussaires.
Ah oui.
Et alors, avec de tels faussaires, les experts, que voulez-vous ?
Et là, puis vous ne remontez pas le moral.
Mais l'autre motif, c'est que c'est Corneille le plus moderne, parce qu'en somme, se lui jurer une amitié fidèle au défaut de l'amour, ça veut dire qu'on dit tous les jours « Je ne t'aime plus, mais reste ton bon copain ».
C'est vrai, c'est vrai. Les Papous à la Cité des Sciences et de l'Industrie et de la Villette à Paris, c'est fini pour la première partie. À retrouver, à podcaster sur franceculture.fr, à la page des Papous dans la tête. Une émission proposée et présentée par Françoise Trossard, équipe technique et de réalisation, Pierre Mine, Claude Giovanetti, Étienne Leroy, Benjamin Perru, chargé de production Christophe Mongin. Et comme nous sommes restés sur scène plus de 3 heures, il y aura une suite à cette émission publique dimanche prochain à 12h45 avec des homophonies, avec Brennus et son butin pour un léger strabisme divergent, un roman interactif polar au musée et bien d'autres jeux encore. Au revoir, passez un très bel après-midi sur France Culture à l'écoute des programmes d'été. Ridicule.